Radio Barque, donc, notre troisième partie pour cette 17e avec Guy Sier, monsieur le maire. Bonjour, bonjour.
Bonjour à Radio Barque.
Oui, à Radio, voilà.
Et à ses auditeurs.
Et à ses auditeurs. Et un tout petit mot, d'ailleurs, peut-être, pour commencer. Les gens de Fleury sont des Pérignanais. Alors, un petit rappel d'histoire rapide.
Oui, c'est vrai que c'est pas banal, ça.
Oui, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge, puisque... Du Moyen-Âge à la Révolution, Fleury était une baronnie et les barons qui géraient le territoire à ce moment-là et qui en étaient les propriétaires étaient les barons de Pérignan. Quand le cardinal de Fleury est devenu ministre, le baron de Pérignan était son neveu. Devenant ministre, il a été fait par le roi, le cardinal de Fleury, faut-il le rappeler, qui était de Lodève, a été fait par le roi duc et pair de France. Le titre de duc, il pouvait le donner à sa descendance, le transmettre à sa descendance, et comme en tant que cardinal, il n'avait pas de descendance officielle. Il a eu l'occasion de transmettre le titre de duc à son neveu, le baron de Pérignan. Ouais. Le baron de Pérignan est devenu duc de Fleury, et donc il a changé le nom de la baronnie en duché de Fleury.
Voilà, mais on a gardé pour décrire les habitants.
Alors ça, c'était en 1736. Mmh. 50 ans plus tard, il y aura la Révolution. En 1756. 30 ans plus tard, à peu près, il y a eu la Révolution. Ils ont remis Pérignan. Et puis, ça a duré jusqu'à la Restauration. En 1816, à la Restauration, ils ont remis Fleury comme nom du village. Mais tout le temps, y compris dans les périodes intermédiaires, les gens ont continué à s'appeler les Pérignanais.
Voilà. Bon, merci, Guy Sier, pour ce petit point d'histoire. Il fallait le souligner. Finalement, il aura fallu le retour de la monarchie, de la Restauration, pour que le nom revienne. Alors, votre commune est une commune, d'ailleurs, tripartite, si je puis dire. Enfin, expliquez-nous son territoire un petit peu écartelé.
C'est une commune, effectivement, un peu particulière. C'est d'abord une grande commune au niveau de l'étendue. Elle a 5200 hectares. Donc, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont cette étendue, en dehors de Narbonne.
À part Narbonne, oui, peut-être.
Voilà, 5200 hectares, et elle comporte trois lieux habités. Le village vigneron de Fleury, à l'intérieur des terres, la station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer, au bord de la mer, et 6 kilomètres plus loin, à l'autre pointe du triangle isocèle, le petit port de pêche des cabanes de Fleury, à l'embouchure de l'Aude, qui aujourd'hui n'est plus un port de pêche, mais un port de plaisance. Voilà, elle a trois lieux habités.
Alors ça va pas s'en poser un certain nombre de problèmes.
C'est très compliqué.
Dans la gestion.
C'est très compliqué à gérer pour plusieurs raisons. Les deux principaux problèmes tiennent, l'un, aux variations de population. Nous passons d'une population hivernale de 4000 habitants à 45 000 résidents l'été, sans compter 30 ou 40 000 personnes qui viennent des alentours pour prendre un bain à Saint-Pierre ou aux cabanes.
Dans la journée, vous voulez dire?
Dans la journée.
Pour les week-ends.
Voilà, donc il arrive qu'on ait 100 000 personnes sur les plages de Fleury entre le 14 juillet et le 15 août. Donc, variation extrême de population. On passe de 4 000 à 45 000 résidents en permanence l'été, et on commence à monter en puissance à partir du mois de mars, dès qu'il commence à faire beau. On passe à 10 000, puis à 20 000 habitants au mois de mai, par là, et 25 000 en juin, et 45 000 en juillet et août. On est considéré, au titre de par l'État, comme étant une commune ayant une population DGF de 12 000 habitants.
DGF, ça veut dire?
Ça veut dire dotation générale de fonctionnement.
Ah oui, pour la finance, oui.
Il ne nous attribue pas, théoriquement, les finances, la dotation d'une commune de 4 000, ni d'une de 45 000. Il nous attribue les dotations d'une commune de 12 000. Mais on n'est jamais 12 000, sinon un moment ponctuel dans l'année.
Oui, un chiffre
et le problème, c'est que pour gérer tout cela, il nous faut bien sûr beaucoup d'employés municipaux. on a 120 employés permanents. On a réduit le nombre un peu. Et on emploie environ 150 personnels pour un mois à la saison. Donc il nous faut beaucoup de personnel. 120 employés permanents, c'est plus qu'il n'en faut en hiver, mais pas assez en été. Donc il faut toujours jongler.
Donc vous êtes écartelé à tout moment.
Toujours jongler avec cela. Ouais. Et le deuxième inconvénient qui est majeur, quand on sait que c'est la charge numéro un des communes, c'est que nous avons 144 kilomètres de voirie rurale. 144 kilomètres de voirie aux seuls frais de la commune. Mmh. Et c'est des voiries qui ne sont pas pratiquées que par les jeunes de la commune.
Oui, bien entendu.
Ils sont pratiquées largement par les touristes. Mais dans l'entretien, incombe exclusivement à la commune, et donc ça, c'est un problème majeur.
Alors, la ressource principale de la commune, vous avez parlé donc de Fleury village viticole, bien sûr, mais bien tout le reste, les cabanes de Fleury et Saint-Pierre, c'est du tourisme.
Voilà.
Alors, comment fonctionne le tourisme sur votre commune, Guissier?
Voilà, alors, vous l'avez dit à juste titre, les deux principales mamelles de la commune de Fleury sont l'agriculture et le tourisme, la viticulture et le tourisme. La viticulture est brillante, ils ont fait de gros efforts pour améliorer la qualité, ils arrivent à vendre sur l'étranger aussi. Il y a une cave coopérative qui produit d'ordinaire 70 000 hectos de vin, associé à la commune de Saledode, et qui l'an dernier, après la grêle et la gelée, n'a produit que 42 000 hectolitres de vin, dont la situation est tendue en ce moment en raison des petites récoltes. L'année avant aussi, il n'avait produit que 55 000 hectolitres. Et nous avons 13 domaines, 13 ou 14 domaines particuliers avec de grands pontes de la viticulture, qui aussi vendent de leur vin à l'étranger. Donc la viticulture est une ressource très très importante pour notre commune.
Alors là, vous évoquez la viticulture pure, si je puis dire, mais quand on est également une commune touristique, est-ce qu'on peut parler chez vous de nos tourismes?
Voilà, alors, effectivement, le tourisme a plusieurs origines. Il y a des gens qui viennent pour se baigner à la mer.
C'est la majorité, on peut penser.
La grande majorité. Et à ce titre-là, on bénéficie de 7 kilomètres de plage de sable fin entre Saint-Pierre, le port de Narbonne-Plage, et l'embouchure de l'eau d'Ocabane, avec une partie d'ailleurs de cette plage consacrée au naturisme, pour les amateurs. Mmh. 7 kilomètres où l'on n'est pas...
La fameuse plage de Pissevache, de l'étang de Pissevache, c'est ça, la plage naturiste?
Oui, voilà, elle est au niveau...
Elle est connue
voilà,
à ce
niveau. Même si le camping naturiste de la Grande Cosse est devenu textile, de part et d'autre de ce camping, il y a deux poches qui sont consacrées au naturisme. Donc 7 kilomètres de plage, il y a des gens qui viennent pour se baigner, les plages sont larges, on n'est pas les uns sur les autres, on a de...
Il y a de la place, ouais.
On a de la place.
C'est ce qui fait le charme un peu encore du Languedoc.
Voilà. Ensuite, l'écotourisme, il y a des gens qui viennent pour les paysages.
Alors, les paysages, l'écologie.
La commune de Fleury est un bijou à ce niveau-là, puisqu'elle compte 5 sites Natura 2000 d'intérêt majeur sur son territoire. 80% de la commune sont couverts par un site Natura 2000. Les 3000 hectares de la Clape, avec la merveille géologique du gouffre de l'œil doux, les paysages emblématiques de la Clape, le sentier des capitelles mis en place par Terre de Garrigue, une association qui entretient, dont les paysages ensuite des marécages, de la zone humide, avec l'étang de Pissevache et les marais attenant autour de l'étang, en lien avec le grand étang de Vendres, où il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, en particulier les sternes, qui viennent nicher chez nous à la demi-saison.
Donc véritablement, l'écotourisme
a demande
place
à être développé, parce que c'est quelque chose qui peut être porteur sur les ailes de saison.
Oui, ce que vous appelez les ailes, c'est l'avant-saison et l'arrière-saison.
Voilà, ça veut dire de mars à juin, et de septembre à Toussaint. Mmh. On s'aperçoit que, et c'est valable pour Saint-Pierre, Gruissan et tout le monde, mmh. On s'aperçoit que tout d'un coup, dès que la rentrée arrive, nos plages se vident brutalement, alors qu'il s'y passe des choses extrêmement importantes. Et aussi, en dehors des vacances de Pâques, dans la demi-saison, on peut mieux faire. On peut amener des retraités, des gens qui prennent les congés en juin, sur nos plages de façon plus importante qu'on ne le fait. Mmh. Et le no-tourisme là-dedans est une valeur essentielle. On s'aperçoit que le paysage de la vigne et ses produits, le vin...
Bien entendu.
Attire quantité de gens. D'abord, tous les gastronomes. C'est vrai que un bon repas sans verre de vin a l'air un peu boiteux.
Voilà. Alors, même si c'est un alcool. point de suspension.
Même s'il faut le consommer avec modération et s'il contient de l'alcool, mais pas autant que le whisky.
Absolument. Voilà. Rappelons-le. Voilà. Donc la notion de vente et dégustation, est-ce que c'est quelque chose qui est croissant chez
justement,
vous?
On s'aperçoit que quand on fait des opérations comme les sentiers gourmands de la Clape au mois de mai, avec un gastronome qui prépare le repas, avec un cuisinier de renom pour préparer le repas, et des producteurs qui présentent leurs meilleurs vins autour d'un parcours. Alors que le prix est de 60 euros le repas, à 1200 personnes, on arrête les inscriptions.
Oui, ça
parce
connaît
que ça marche très très bien. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la viticulture, à ses produits, à l'intérêt qu'ils ont, voilà, au paysage de la vigne. Les viticulteurs, bien sûr, ont fait des efforts pour modifier l'encépagement, pour modifier maintenant les façons de travailler la vigne, avec des façons plus respectueuses, et des efforts pour produire du vin de qualité dans de bonnes conditions, et le commercialiser comme il faut.
Oui, voilà. Donc finalement...
Le no-tourisme peut marcher. Il y a des... Allez, je vais le dire sous forme de boutade. On voit au mois de juin... des Allemands qui ont traversé toute la France jusque chez nous pour venir faire une cure de rosé.
Bon, eh bien, voilà une belle pub pour la ville. Alors, vous avez parlé de ces grandes plages de sable fin, Guissier, et de l'embouchure de l'Aude. Les deux réunis, parfois, ça vous cause des problèmes lorsqu'il y a des crues, puisque les crues de l'Aude apportent tout un tas de cochonneries, de bois flottant, et ça vous oblige ensuite à faire des grosses opérations de nettoyage.
Exactement. C'est... un problème qui pourrait être résolu très facilement.
Alors dites-nous comment.
Dans les années 86 à 88, dans le cadre du projet NISA, où on voulait que autour d'une cité lacustre aux cabanes de Fleury de 6000 lits et d'une nouvelle station de l'autre côté de la rivière de 25 000 lits sur le territoire de Vendres, où l'on voulait créer la 7e station du littoral, le concepteur, qui était Guillaume Castro, avait imaginé qu'on pourrait rendre l'Aude navigable des cabanes de l'embouchure jusqu'au canal du Midi.
Et alors ?
Et pour cela, il s'est dit, pour que les bateaux puissent plus facilement rentrer dans la rivière par gros temps, on va incurver la digue, le débouché en mer, on va l'incurver vers les plages de Saint-Pierre. Comme ça, quand il y aura une tempête du grec, la digue fera abri. L'inconvénient, c'est que le projet n'a pas été réalisé, que quand il y a du vent du grec, les gens des cabanes ne sortent pas, ils sont pas idiots, donc ils restent au port, et que cette incurvation de la digue vers les plages de Fleury, lors des crues, aboutit à ce que tout ce que transporte la rivière, des tonnes de bois, de branchages, de végétaux, 10 000 bouteilles plastiques l'an dernier, 10 000, des carcasses de voitures, quelques animaux morts, tout ça arrive sur la plage de Fleury. Alors, bien sûr, on crie parce que on doit l'enlever chaque fois aux seuls frais de la des contribuables de Fleury, alors que ça vient de tout le département. Et par contre, au plan écologique, c'est une bonne chose.
Ah,
je vais vous surprendre.
Oui.
Il vaut mieux que les détritus aillent sur la plage où ils sont faciles à ramasser
plutôt que sur la
mer. D'aller polluer la mer où ils sont très difficilement récupérables.
Bon.
Ce que nous demandons, donc, c'est que financièrement, toutes les communes riveraines de l'Aude participent au nettoyage de la plage de Fleury après chaque crue. C'est une question de morale. Pollueur-payeur, le principe doit être mis en œuvre.
Voilà, mais jusque-là,
mais malheureusement, on a du mal à se faire entendre.
Jusque-là, ça n'est pas le cas, oui.
Jusque à la source de l'Aude, pour donc toutes les communes de riveraines.
Bon, ça.
Absolument.
Mais,
absolument. Et puis, je vais vous dire.
C'est le rôle du conseil général qui joue.
Oui, c'est dans le cadre du SMAR que ça doit être organisé. Bon, bien sûr.
Jusque-là, ça n'est pas le cas. Et alors, vous organisez vous-même de temps en temps. Bricolage sans que ça soit péjoratif, c'est-à-dire des petites opérations où les gens viennent bénévolement prêter leur concours, hein, c'est ça. D'ailleurs, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, vous en avez organisé une. Un auditeur, je crois, de Grand Sud FM nous avait dit, il était venu de l'arrière-pays lésignanais vous aider là-bas sur la Fleury. Donc un bel exemple, finalement, d'engagement citoyen. Mais quand même, d'un autre côté, ça vous fait respecter devant le manque de moyens. Vous êtes un peu démunis.
Voilà, on organise des opérations de tri de ce qui a été déversé sur la plage. Bien sûr, on est équipé de tracteurs, de gros chargeurs qui nous permettent d'évacuer, avec du temps, d'évacuer tout. Mais on n'évacue pas n'importe comment. On commence à enlever les bouteilles plastiques. On commence à enlever la ferraille. Et pour ça, on fait appel à des volontaires. Parce que 6 kilomètres de plage, c'est long à nettoyer. On fait appel à des volontaires pour ce genre d'opération. Et d'ailleurs, dernièrement, une société de Fleury, qui s'appelle le Club de sauvetage pérignanais, dimanche dernier, a organisé de même une opération de nettoyage autour de l'étang de Pissevache.
Voilà, bon, ben, de belles organisations quand même, enfin de belles initiatives qui font...
Chaque année, il nous en coûte, quand la crue est importante, entre 60 000 et 90 000 euros. C'est beaucoup pour la commune, mais réparti sur l'ensemble du département,
ça serait
avec des aides diverses,
ça serait,
c'est tout à fait gérable.
Ça serait si c'était le cas. Un tout dernier mot, parce qu'il va falloir conclure. On n'a pas évoqué un des grands problèmes de la gestion de Fleury, qui, du fait que c'est une commune qui a dépassé, je crois, 3500 habitants, se retrouve tout d'un coup avec une obligation d'avoir des logements sociaux.
Oui. Alors avant d'évoquer ce problème des logements sociaux,
on va l'évoquer rapidement,
et pour en terminer avec le tourisme, je voudrais dire que Fleury est une des communes les plus touristiques de la côte audoise. Nous avons 8000 résidences secondaires. 8000.
Oui, ça fait du monde.
Et nous percevons plus de 2500 euros par an, on percevait jusqu'à maintenant, parce que c'est l'agglo qui va le faire, plus de 2500 euros par an de taxes de séjour. C'est-à-dire, autant que le CAT, que Gruissin. Non, 250 000 euros.
250 000 euros.
Non. 250 000 euros de taxes de séjour. Sur nos 8000 résidences secondaires. Et nos 4 campings, dont 2 sont municipaux. C'est autant que, c'est plus que la Nouvelle, plus que Gruissant, autant que le CAT. Voilà, on est une commune extrêmement importante pour le tourisme,
mais
comme alors, on manque d'hôtels, on n'est pas surclassé station touristique. Alors que le CAT, Gruissant, Narbonne-Plage le sont.
Alors quelle est la conséquence négative pour vous?
Alors la conséquence, c'est que les dotations de l'État ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Si on était surclassé station touristique, on aurait davantage de dotations. Ce que nous demandons, on n'est pas surclassé parce qu'on manque d'hôtels. Mais on a beaucoup de chambres en para-hôtellerie. On a développé l'hôtellerie de plein air. Parce qu'à un moment, on a décidé, le maire des années 80 a décidé qu'il serait bien que les gens de conditions modestes puissent continuer à venir à la mer. Donc il a développé la para-hôtellerie, les villages de vacances en famille, 500 chambres à Fleury. Il a développé les campings. Et on manque d'hôtels parce que c'est une clause absolue pour pouvoir bénéficier de la dotation de communes touristiques.
Alors,
on demande que la norme soit revue.
Voilà. Ah, vous demandez une révision de la norme. Eh bien, voilà. Je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faudra conclure, puisque le temps passe. Effectivement, vous aviez raison, Guissier. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et bon, on en gardera pour une autre fois. À propos, on m'a dit aussi que... Alors vous, monsieur le maire, de votre ancien métier, vous étiez enseignant et que vous faites encore Fazette Sencaro des cours Ces d'Occitane à Fleury. Esberta Taco, vous faites encore des cours d'occitan. On m'a dit ça et il y a des mounes qui m'ont dit que c'est régalable pendant les cours de monsieur Sier.
Mon père qui travaille à Bolabigno et ma mère qui demeure à Bolustal. Quand parlons entre elles, parlons que notre langue.
Voilà, donc
on est avec nous autres. Et moi, d'accord, et continue à l'étudier. À l'université, et fait qu'à le jour d'éveil, pensez qu'est-ce qui compte d'important, de garder notre langue, et de faire que le monde d'Almiature, d'oublier son passe, que c'est peut être professeur de français comme vous.
Et par là aussi.
Et par là, t'as vu, la langue occitane, que lui n'aime pas chopper là.
La langue, merci en tout cas.
Sur les logements sociaux aussi.
Merci donc Guissier pour ce témoignage et pour ces paroles en lingua nostra, en occitan pour conclure. Le prochain Radio Barque verra comme invité Madame Sandranier, Hélène Sandranier, qui est conseillère départementale et qui s'occupe notamment du social et de l'autonomie, c'est-à-dire, je crois, particulièrement des personnes âgées. Parmi les prochains invités, très rapidement, citons également Monsieur Martin, le maire de la Nouvelle, Madame Dandoc, la co-gérante de Fonds Froide, et puis un petit peu plus tard aussi, nous aurons le directeur délégué de l'Indépendant, Monsieur Alain Bott. Voilà un aperçu. Ça veut dire qu'il y a encore du pain sur la planche pour les prochaines émissions. Merci, à la semaine prochaine. Merci.